Chapitre 40. Jeudi 17 décembre, fin de matinée. Simone sent soudain une goutte de sang perler sur sa lèvre inférieure. Elle s'est mordue sans se rendre compte. Toute son énergie est occupée à penser à autre chose. Son père s'est fait renverser par une voiture. Il est allongé là, dans une chambre de l'hôpital Sankt-Gheran, depuis quelques jours. Et personne n'a encore pu estimer la gravité de ses blessures. Le choc aurait pu le tuer. C'est la seule chose qu'elle sait. Des maux de tête lui laminent le crâne. Elle a perdu Eric. Elle a peut-être perdu Benjamin. Et maintenant, il se peut qu'elle perde aussi son père. Elle l'a déjà fait des dizaines de fois, mais par sécurité, elle sort de nouveau son portable, vérifie qu'il fonctionne, puis le met dans la poche extérieure de son sac, d'où elle pourra facilement l'atteindre si d'aventure il se mettait à sonner. Ensuite, elle se penche sur son père et arrange sa couverture. Il dort mais ne fait pas un bruit. Kenneth Strang est probablement le seul homme au monde qui dorme en silence. Elle s'est fait la réflexion à maintes reprises. Il a un bandage d'une blancheur éclatante autour du front. Une tache sombre dépasse, un bleu qui s'étend sur l'une des joues. La sévère contusion, le nez enflé et le coin de la bouche qui pend mollement le font paraître différent. « Mais il n'est pas mort, » pense-t-elle. « Il est en vie. Et Benjamin est en vie aussi. Je le sais, il le faut. » Elle tourne en rond dans la pièce. Elle pense à la conversation qu'elle a eue avec son père au téléphone l'autre jour, quand elle revenait de chez Sim Schulman, juste avant l'accident. Il lui avait dit qu'il avait trouvé Waylord, qu'il devait se rendre à un endroit qui s'appelait la mer. C'était quelque part sur la pointe de Loudon. Simone regarde de nouveau son père. Il dort profondément. « Papa ?» Elle regrette aussitôt d'avoir parlé. Il ne se réveille pas, mais le tourment voile son visage endormi. Simone touche doucement la plaie sur sa lèvre inférieure. Son regard tombe sur un chandelier de l'avant. Elle fixe ses chaussures, leur protection en plastique bleu. Elle pense à un après-midi, il y a de nombreuses années, où, avec Kenneth, elle avait regardé sa maman leur faire un signe d'adieu avant de disparaître dans sa petite Fiat verte. Simone frissonne. Le mal de tête cogne dans ses tempes. Elle serre le gilet de laine plus près de son corps. Soudain, elle entend Kenneth gémir faiblement. « Papa ? » dit-elle comme un petit enfant. Il ouvre les yeux. Il semble trouble, pas entièrement réveillé. Le blanc d'un des yeux est injecté de sang. « Papa, c'est moi !» dit Simone. « Comment te sens-tu ? » Son regard erre. Soudain, elle a peur qu'il n'ait perdu la vue.
« Sixon ? » ?»«
Je suis là, papa. »
Elle s'installe doucement près de lui et lui prend la main. Ses yeux se referment. Ses sourcils se contractent comme s'il avait mal.
« Papa ? »
demande-t-elle à voix basse.
« Comment te sens-tu ? »
Il tente d'atteindre sa main pour la caresser, mais n'en a vraiment pas la force.
« Je serai bientôt sur pied, » râle-t-il. « Ne t'inquiète pas pour moi. »
Silence. Simone s'efforce de ne penser à rien. Elle tente de déloger son mal de tête, de barrer la route à l'inquiétude qui fond sur elle. Elle n'ose pas le brusquer dans cet état. Mais la panique la pousse à faire une tentative.
« Papa ? »
demande-t-elle timidement.
« Tu te rappelles ce dont on parlait juste avant que tu te fasses renverser ?»
Il lève sur elle des yeux fatigués et secoue la tête.
« Tu disais que tu savais où se trouvait Waylord. Tu parlais de la mer, tu te rappelles ? Tu disais que tu allais rejoindre la mer. »
Les yeux de Kenneth clignent. Il prend de l'élan pour se redresser, mais s'effondre aussitôt en gémissant.
« Papa, raconte-moi. Il faut que je sache où c'est. Qui est Waylord ? Qui est-ce ? »
Il ouvre la bouche. Son menton tremble quand il chuchote.
« Un enfant. C'est un enfant. »
« Qu'est-ce que tu dis ?»
Mais Kenneth a refermé les yeux et ne semble plus l'entendre. Simone s'approche de la fenêtre et regarde le complexe hospitalier. Elle sent un courant d'air froid, le rebord de la fenêtre est crasseux. En respirant contre celle-ci, elle voit, l'espace d'un instant, l'empreinte d'un visage dans la buée. Quelqu'un d'autre s'est trouvé exactement au même endroit, la tête penchée contre la vitre. L'église qui se trouve de l'autre côté de la rue est plongée dans l'obscurité. Les réverbères se reflètent dans les fenêtres cintrées et noires. Elle pense au message de Benjamin à Aïda, disant qu'il ne fallait pas laisser Nick descendre à la mer. « Aïda, » se dit-elle silencieusement, « je vais aller voir Aïda, et cette fois, elle va tout me raconter. » C'est Nick qui ouvre quand Simone sonne chez Aïda. Il la regarde d'un air interrogateur. « Salut, » dit-elle. « J'ai eu de nouvelles cartes, » s'emballe-t-il. « Super, c'est des cartes de filles, mais il y en a plein qui sont super fortes. « Est-ce que ta sœur est là ?»« Aïda ? Aïda ?» Nick replonge dans l'obscurité du vestibule et disparaît dans l'appartement. Simone reste à la porte et attend. Elle entend le bruit singulier d'une pompe, un faible râle. Puis, elle voit une femme maigre et bossue venir à sa rencontre. Elle tire derrière elle un petit chariot auquel est accrochée une bouteille d'oxygène. Un tuyau relie la bouteille à la femme, apportant de l'oxygène dans ses narines par des fines tubulures en plastique transparent. La femme frappe sur sa poitrine d'un poing fluet.
« Oh, Fizème !»
chuante-t-elle. Puis son visage ridé se contracte dans un terrible accès de toux. Quand enfin elle se calme, elle fait signe à Simone d'entrer. Elles traversent ensemble le long vestibule sombre jusqu'à une salle de séjour remplie de meubles lourds. Par terre, entre un meuble hi-fi avec une porte vitrée et un meuble télé, Nick joue avec ses cartes Pokémon. Aïda est assise dans le canapé marron, coincée entre deux gros palmiers d'intérieur. Simone la reconnaît à peine. Elle n'a pas une once de maquillage. Elle a un joli visage, très jeune. Elle a l'air d'une enfant. Ses cheveux sont brossés, lisses et réunis en une queue de cheval soignée. Elle tend la main vers un paquet de cigarettes et en allume une, les mains tremblantes, au moment où Simone entre dans la pièce. « Salut, » dit Simone. « Comment vas-tu ? » Aïda hausse les épaules. On dirait qu'elle vient de pleurer. Elle tire une bouffée et glisse une assiette verte sous la braise comme si elle avait peur de faire tomber de la cendre sur les meubles.
« Asseyez-vous, »
siffle la maman à Simone, qui s'installe dans un des gros fauteuils, coincé entre le canapé, la table et les palmiers. Aïda fait tomber de la cendre dans l'assiette verte.
« Je reviens tout juste de l'hôpital, » dit Simone. « Mon père s'est fait renverser par une voiture. Il était en route pour la mer. Il allait voir Waylord. »
Soudain, Nick se relève. Son visage est tout rouge.
« Waylord est en colère. Vraiment, vraiment en colère. »
Simone se tourne vers Aïda qui déglutit avec difficulté, puis referme les yeux.
« C'est quoi toute cette histoire ?» demande Simone. « Où est Lord ? De quoi s'agit-il ? »
Aïda écrase la cigarette, puis dit d'une voix instable
« Ils ont disparu. Qui ? Une bande qui nous embêtait, Nick et moi. Ils étaient horribles. Ils allaient me marquer. Ils allaient faire un... »
Elle se tait et regarde sa mère qui pousse un grognement.
« Ils allaient faire un feu de joie de maman, »
dit lentement Aïda.
« Petit merdeux, »
siffle la maman depuis l'autre fauteuil.
« Ils empruntent des noms de Pokémon. Ils s'appellent Azelf, Magmortar ou Lucario. Ils changent parfois, on a du mal à comprendre. Ils sont combien ? Je ne sais pas, peut-être juste 5 ?»
répond-elle.
« Ce sont des gamins, le plus vieux à mon âge. » Le plus jeune ne doit avoir que 6 ans. Mais ils ont décidé que tous ceux qui habitaient ici devaient leur donner quelque chose,
continue Aïda. Elle croise le regard de Simone pour la première fois. Ses yeux sont couleur ambre, très beaux, clairs, mais remplis de terreur.
Les gamins devaient donner des bonbons, des stylos,
poursuit-elle de sa voix frêle.
Ils ont vidé leur tirelire pour éviter la raclée. D'autres leur ont donné leurs affaires, leurs portables, des jeux Nintendo. Ils ont eu ma veste, ils ont eu des cigarettes. Et Nick, ils l'ont battu. Ils lui ont pris tout ce qu'il avait. Ils ont été horribles avec lui.
Sa voix s'estompe. Des larmes jaillissent de ses yeux.
« Est-ce qu'ils ont enlevé Benjamin ?»
demande Simone sans détour. La maman d'Aïda agite la main.
Ce garçon n'est pas bien.
Réponds-moi, Aïda, s'emporte Simone. Réponds-moi tout de suite.
Ne criez pas sur ma fille,
siffle la maman. Simone secoue la tête et répète une nouvelle fois d'un ton encore plus tranchant.
Tu vas me raconter ce que tu sais maintenant, tu entends ?
Aïda ravale sa salive.
Je ne sais pas grand-chose, finit-elle par dire. Benjamin est intervenu. Il a dit qu'il ne fallait rien donner à ces mecs. Wellord est devenu fou. Il a dit que c'était la guerre. Il nous a réclamé plein d'argent.
Elle rallume une cigarette, prend une bouffée d'une main tremblotante, tape doucement la cendre dans l'assiette verte et continue.
Quand Wellord a su que Benjamin était malade, il a donné des aiguilles aux enfants pour qu'ils les raflent.
Elle se tait et hausse les épaules.
« Qu'est-ce qui s'est passé ?»
dit Simone d'une voix impatiente. Aïda se mord les lèvres, enlève un bout de peau de sa langue.
« Qu'est-ce qui s'est passé ?» Wellord a arrêté. Il a disparu tout d'un coup. J'ai vu les autres enfants, ils se sont jetés sur Nick l'autre jour. Maintenant, ils en suivent un qui se fait appeler Ariados. Mais depuis la disparition de Wellord, ils sont perdus, ils font n'importe quoi. C'était quand ? Quand est-ce que Wellord a disparu ? Je crois que c'était mercredi dernier, c'est-à-dire 3 jours avant la disparition de Benjamin.
Sa bouche se met à trembler.
Wellord l'a enlevé, chuchote-t-elle. Wellord lui a fait quelque chose d'horrible. Maintenant, il n'ose plus se montrer.
Elle s'effondre, prise de sanglots convulsifs. Simone voit la mère peiner pour se lever, enlever la cigarette de la main de sa fille et l'écraser lentement dans l'assiette verte.
« Putain de monstre !» dit-elle d'une voix sifflante.
Simone ignore complètement de qui elle parle.
« Qui est Wellord ?» demande-t-elle de nouveau. « Il faut que tu me dises qui c'est !»«
Je ne sais pas !»
crie Aïda.
« Je ne sais pas !»
Simone sort la photo de la pelouse et des buissons contre la clôture brune qu'elle a trouvée dans l'ordinateur de Benjamin.
« Regarde ça !» dit-elle d'une voix ferme.
Aïda regarde le tirage, le visage fermé.
« C'est quoi cet endroit ?»
demande Simone. Aïda hausse les épaules et regarde furtivement sa mère.
« Aucune idée !» dit-elle d'une voix monotone. « Mais c'est toi qui lui as envoyé cette photo !»
objecte Simone énervée.
« Ça venait de toi, Aïda !»
Le regard de la fille se détourne et cherche de nouveau sa mère, assise avec la bouteille de gaz sifflant à ses pieds. Simone agite la photo devant son visage.
« Regarde, Aïda, regarde encore. Pourquoi est-ce que tu as envoyé ça à mon fils ?»«
C'était juste pour plaisanter, »
chuchote-t-elle.
« Pour plaisanter ?»
Aïda hoche la tête.
« Genre, est-ce que tu aimerais habiter dans un endroit pareil ?»
dit-elle faiblement.
« Je ne te crois pas. » dit Simone d'une voix résolue. « Maintenant, tu me dis la vérité. »
La mère se lève de nouveau en agitant les mains.
« Espèce de gitane, sors de ma maison !»«
Pourquoi est-ce que tu mens ?»
Simone croise enfin le regard d'Aïda. La fille semble éperdument triste.
« Désolée, »
dit-elle d'une petite voix.
« Désolée. »
Au moment où elle sort, Simone croise Nick. Il est dans le vestibule obscur et se frotte les yeux.
« Je n'ai pas de pouvoir. Je suis un Pokémon nul. »«
Mais si tu en as, » dit Simone.